Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 15h à Kinshasa, 16h à Beni au Nord Kivu. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Début ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle. Une épreuve certificative qui permet aux élèves de 8e année de passer aux humanités. Une personne a été tuée hier soir dans une nouvelle embuscade tendue par des hommes armés non identifiés contre un véhicule poids lourd à Nyaleke, au nord-est de la ville de Beni, au nord Kivu. La police est arrivée sur les lieux de l'incident pour constater les dégâts quelques heures après la fuite des assaillants. L'invité de ce journal est la coordonnatrice du Centre provincial des transfusions sanguines CPTS Nord Kivu. Docteur Liliane Bouiza revient sur la problématique des dons de sang dans cette province. Mesdames, Messieurs, bonjour. Début ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP, une épreuve certificative qui permet aux élèves de 8e année scolaire de toute la République de passer aux humanités. C'est à l'école Sainte-Catherine dans la commune de Mongafula, ici à Kinshasa, que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a procédé au lancement de ces épreuves. L'inspecteur général de l'EPST, Odia Musungai, fait le point au micro de Chris Bandundu Kapalai.
Ce matin, on a commencé par à Sainte-Rita, c'est à Mongafula. C'est là le point de départ. C'est là que le ministre, le professeur Tony Mwaba, a procédé au lancement de cette épreuve, le TENASOSP, comme vous l'avez souligné. On est allé visiter d'autres centres où se déroule cette épreuve. Nous sommes passés par à Gombe. On a fait Limete, on a fait également Lemba. Et là, on est au point de chute, c'est Révérend Kim sur 24 novembre. Pour toute l'étendue de la RDC, nous attendions 1,571,000 candidats. Nous disons 57% des garçons et 43% des filles participants. Et les élèves, les candidats ont même fini les épreuves du jour. C'est que ça se passe bien. D'ailleurs, je suis en train d'observer des élèves qui rentrent déjà allègrement à la maison. C'est que tout s'est bien passé. On termine demain. C'est pour deux jours. Aujourd'hui et demain, vendredi, on termine sur toute l'étendue de la République.
Au Maniema, c'est le gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala qui a lancé ses épreuves à partir de l'école primaire Kindouville en présence de plusieurs personnalités de cette province. Ils sont au total 22 798 élèves dont 10 620 filles qui passent ce test répartis dans 77 centres. À Kindou, la correspondance de Florence Kizalunga.
Le proverbe premier à prendre la parole a exhorté ses enfants à plus de concentration car ces épreuves ont pour but de leur déceler des aptitudes pour une orientation vers les types d'enseignement organisés. Mokito Gaunda.
Comme le nom l'indique, c'est un test des connaissances acquises pendant les deux années que vous venez de passer au secondaire, à l'issue duquel les lauréats seront orientés selon leurs aptitudes intellectuelles. Travaillez donc à l'aise, sans précipitation, tout en évitant la fraude.
Exhortation renchérie par l'inspectrice principale provinciale Godelive Mouinda.
Par conséquent, aucun élève de 8e ne pourra passer en première année des humanités s'il n'a pas obtenu ce brevet. Chers enfants, des personnes mal intentionnées vous disent que le TENASOSP ne sert à rien et que seuls les points scolaires comptent pour passer en première année des humanités. Je vous dis haut et fort que cela est faux, que personne ne vous trompe en vous disant que le TENASOSP ne sert à rien. Donc si vous n'obtenez pas ce brevet, vous allez doubler la classe de 8e. Qui veut doubler la classe de 8e? Personne.
Cette dernière a annoncé que le brevet pour l'actuelle édition du TENASOSP est déjà à Kindou et seront remis aux élèves qui auront réussi. Kindou, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À l'Équateur, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire a exhorté les candidats au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle à bannir la peur, mais plutôt à travailler sereinement. Taylor Nganzinkeka a promis le soutien et le réconfort du gouvernement provincial à ses finalistes de 8e année. C'était lors de la cérémonie de lancement qu'il a présidé à l'Institut Bakusu de Mbandaka. Pour la province éducationnelle de l'EPST Équateur 1, il y a 25 734 candidats attendus, dont 13 184 garçons et 11 850 filles. Tandis qu'ils sont répartis dans 109 centres, dont 32 dans la ville de Mbandaka. Au Nord Kivu, des violents affrontements sont signalés depuis tôt ce jeudi entre les groupes d'autodéfense et les rebelles du M23, accusés par les autorités d'être soutenus par l'armée rwandaise. Ces combats à l'arme lourde et légère se déroulent sur l'axe Kibarizo, Kaira et Boutale Monastère dans le groupement Bachali Mokoto. Plusieurs habitants se sont déplacés de Boutale en direction de Kibachiro, affirment nos sources. Les notables de la région disent que les rebelles du M23 ont lancé les attaques contre les positions des APCLS et les Nyatura, précisément à Boutale, Kasura, Tambi et Kaira, et leurs maisons incendiées par les rebelles. Ces combats se poursuivent, ajoutent nos sources. Une personne a été tuée hier soir dans une nouvelle embuscade tendue par des hommes armés non identifiés contre un véhicule poids lourd à Nyaleke. C'est un village situé à une quinzaine de kilomètres au nord-est de la ville de Beni, sur la route Beni-Kassindi, au nord Kivu. La police est arrivée sur le lieu de l'incident pour constater les dégâts quelques heures après la fuite des assaillants. Le récit des faits avec Marc Marofimbo.
L'attaque de ces véhicules poids lourds qui transportaient des marchandises est intervenue aux environs de 19h, heure locale. Selon les conducteurs du véhicule et rescapés de l'attaque, les assaillants armés et habillés en tenue semblable à celle des phares d'essai ont tiré plusieurs coups de feu pour arrêter le véhicule. L'aide-chauffeur a été atteint par balle au niveau de la gorge et est décédé sur les champs. D'après lui, les appels à l'intervention de l'armée sont restés vains. Des militaires de l'armée ougandaise UPDF sont arrivés sur place quelques minutes après l'incident pour sécuriser la zone avant d'être rejoints par quelques éléments de la police nationale congolaise. L'attaque de ces véhicules s'est déroulée entre deux positions importantes des FRDC, l'état-major du secteur opérationnel Sokola 1, situé à moins de 1 km au sud du lieu de l'incident, et un campement de l'armée situé à environ 500 mètres au nord. Nos efforts pour avoir la réaction des FRDC n'ont pas abouti. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Une délégation de chefs de la ministère conduite par le chef du village Kasebu a rencontré hier mercredi à Kalemie le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika. Ce chef milicien annonce qu'ils sont plus de 270 personnes avec leurs dépendants et se sont rendus au FRDC il y a plus d'une semaine au village Kasebu, un village situé à 65 km de Kalemie dans la chefferie des Rutuku, en province de Tanganyika. Le point avec Paul Munanga.
Le chef du village Kasebu était accompagné par quatre chefs de la milice Twa qui s'appellent Muchunga, Kabeke, Makalo et Kachunga. Selon le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika, ces ex-miliciens ont déposé les flèches et lances au FRDC au village Kasebu. Cependant, précise le ministre, ces personnes n'ont aucun moyen pour leur survie et passent la nuit à la belle étoile. Les chefs miliciens qui ont rencontré le ministre provincial de l'Intérieur demande une assistance au gouvernement du Tanganyika. Dieudonné Kasaka, ministre provincial de l'Intérieur.
Ils m'ont rassuré qu'ils veulent maintenant aussi s'installer, faire étudier leurs enfants, mais seulement ils ont un souci parce que là où ils vivent, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de centre de santé. Voilà pourquoi ils ont préféré venir eux-mêmes, bouche à l'oreille, qu'ils puissent nous faire parvenir le message de leurs soucis et qu'ils créent un village. Et aussi, ils ont demandé que le gouvernement peut leur aider avec les houes, les haches, machettes qui vont les permettre à bien réussir les travaux champêtres.
Les chefs de la milice Toa lancent un appel à d'autres miliciens qui traînent encore dans la brousse de cesser les exactions et de se rendre aux autorités du Tanganyika. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi à 1h15 six projets de loi, parmi lesquels la loi autorisant la prorogation de l'état de siège et les projets de loi portant habilitation du gouvernement à légiférer durant la période des vacances parlementaires. Si les projets de loi portant autorisation d'une énième prorogation de l'état de siège a été voté sans débat, la loi portant habilitation du gouvernement a suscité un grand débat à minuit avant son adoption à 1h du matin. La plupart des députés n'ont pas jugé opportun d'habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance-loi les matières autres que l'autorisation de la prorogation de l'état de siège. Les retours sur ce débat avec vous, Michel Kifindangoy.
À travers ce projet de loi, le gouvernement a sollicité d'être habilité à voter plusieurs lois pendant les 3 mois de vacances parlementaires. Il s'agit notamment des projets de loi portant l'endettement public, la répression du racisme et du tribalisme, ainsi que celui portant création des médailles de la vaillance pour la patrie. D'après Emery Okunji, le gouvernement devrait être habilité uniquement à autoriser la prorogation de l'état de siège.
L'aménagement du territoire. Constitutionnellement, nous ne pouvons pas habiliter le gouvernement sur cette matière. Il y a des principes généraux du secteur des jeux d'argent. Est-ce vraiment si une matière urgente?
Appuyant cette position, la députée Geneviève Inagossi déplore que le gouvernement attende toujours les vacances parlementaires pour solliciter l'habilitation.
Nous avons suffisamment de temps. Il y a même des semaines que nous avons passé ici sans plénière. Le gouvernement avait tout le temps de venir présenter ses différents projets de loi ici.
Après le débat, l'Assemblée nationale a adopté cette loi d'habilitation, néanmoins quelques modifications, notamment en élaguant de la liste des lois à légiférer par le gouvernement, celles portant l'aménagement du territoire, ainsi que celles sur les jeux d'argent.
Les jeunes étudiants des universités de la ville de Lubumbashi s'intéressent aussi à l'URC Mining Week. Ils sont nombreux à visiter les stands et à échanger avec les responsables d'entreprises présents à ce forum économique des miniers. Et chacun d'eux affiche son intérêt. Vanessa Kongolo les a rencontrés. Voici son reportage.
Plamedi Mbouyi, étudiante à la faculté de l'économie, explique ce qui l'amène à ce forum.
Je suis venue par curiosité d'abord. Pour savoir comment se déroule l'IRC Mining, parce que j'entends tout à l'heure. En arrivant, j'ai une idée. Et avec plusieurs stands, je suis vraiment intéressée côté finance.
Un peu plus loin, nous avons rencontré Thierry Aruna. Il est en deuxième licence à la faculté de droit. D'après lui, les jeunes doivent s'intéresser au secteur minier car...
Il n'y a que quelques catégories de personnes qui ont accès à ce genre de secteur. Et des fois, il peut paraître un peu occulte et caché du grand public. Et c'est une occasion aussi de permettre à tout le monde, à tout un chacun d'entre nous, de venir se renseigner sur les secteurs miniers, les matières qui sont utilisées pour l'extraction des minerais, les rouleaux, tout ce qui a trait au secteur minier.
Parmi les nombreux étudiants présents à ces forums, Christelle Kayumba s'est beaucoup intéressée au fonctionnement des entreprises minières, car bientôt elle aura son diplôme en géologie et aspire à travailler dans un secteur qui cadre avec sa formation académique. De Lubumbashi, Vanessa Kongolo, Radio Okapi.
La promotion de la pêche durable et de l'aquaculture sont des activités importantes pour la promotion de l'économie bleue des 22 pays membres de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique. C'est selon Ahmed Senouri, directeur exécutif du partenariat régional pour la conservation pour la zone côtière et maritime, qui a pris la parole au séminaire atelier sur la pêche durable qui se tient à Tanger, au nord du Maroc. Il déplore cependant la faible implication des décideurs des pays de la région qui ne prennent pas souvent part actifs dans les décisions qui sont prises sur les questions de la pêche au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Il a fait cette déclaration au micro de Tati Mapoukou.
La question des négociations, c'est les questions liées à la pêche au niveau international, est aussi la même que celle des négociations sur tous les autres accords internationaux, notamment les accords qui ont un intérêt commercial. Et la pêche est un enjeu commercial important. C'est un enjeu de survie pour nos communautés, nos pays, mais aussi c'est un besoin pour les pays industrialisés qui aussi exploitent des ressources halieutiques. Et donc, les négociations se font de manière biaisée, dans la mesure où elles se font entre des pays qui ont des capacités de négociation énormes, des compétences développées dans le domaine des négociations, mais dans les domaines techniques aussi, avec d'autres pays qui ont des capacités limitées en nombre, mais aussi en qualité. Alors que d'autres pays envoient des délégations composées de centaines d'experts parfois. Et au vu des enjeux financiers de ces questions, évidemment, le plus fort va dominer.
Actualité internationale.
Au Soudan, deux mois après le début de la guerre, les habitants de Khartoum font face aux pénuries critiques de vivres et de médicaments essentiels. Des quartiers entiers de la capitale soudanaise n'ont plus l'eau courante. L'électricité n'est disponible que quelques heures par semaine. La plupart des hôpitaux dans les zones de combat sont détruits et les installations de secours ont été pillées. Au Nigeria, le bilan du naufrage d'un bateau lundi dernier dans une rivière du centre nord s'élève désormais à 106 morts, alors que les recherches pour retrouver d'éventuels survivants se poursuivent, a déclaré hier mercredi la police. Un premier bilan a fait état hier mardi des 103 victimes, dont plus de la moitié venaient du village Debou. Le bateau, qui transportait environ 250 personnes de retour d'un mariage, a chaviré tôt lundi matin dans l'état de Kwara.
L'invité.
L'invité de ce journal est la coordinatrice du Centre provincial de la transfusion sanguine, CPTS Nord Kivu. Docteur Liliane Bouiza revient sur la problématique de dons de sang dans cette province. Vous le savez déjà, c'est en marge de la commémoration hier mercredi de la journée mondiale des donneurs bénévoles du sang. Docteur Liliane Bouiza s'entretient avec Bernardine Diambou.
Docteur Liliane Vumilia, bonjour.
Oui, bonjour.
Le 14 juin, le monde célèbre la journée mondiale de dons de sang. Au Nord Kivu, avec le contexte de guerre, quel état des lieux faites-vous?
Depuis l'année passée, il y a eu une forte augmentation de demande de produits sanguins. Aujourd'hui, nous sommes à 78 000 de besoins attendus pour sauver les gens qui ont besoin du sang. L'année passée, nous étions à 62 000. Vous comprenez qu'il y a une forte augmentation. Et ceux qui ont répondu à cet appel, on a eu 42 000 personnes qui sont venues donner du sang. 33 800, c'était des donneurs bénévoles. Mais vous comprenez que normalement, la transfusion sanguine, le produit doit être donné par uniquement les donneurs bénévoles. Parce que les donneurs occasionnels ou les donneurs payants, ce n'est pas du sang sécurisé. Il est à l'origine de contamination de maladies.
En termes de défis, quels sont les défis?
Je dirais qu'aujourd'hui, la province du Nord Kivu, à ce moment, nous sommes en train de traverser une carence en produits sanguins. Ça signifie que tout ce que nous collectons est en train de partir et la banque de sang reste presque, quasi carrément en stock zéro. Ceci montre combien de fois qu'on ne satisfait pas et qu'il y a risque d'alourdir les décès. Les décès au niveau des hôpitaux, si la situation continue comme cela. Avec les déplacés massifs quand même qui sont venus dans la province, surtout dans la ville de Goma, il s'avère que les donneurs qui donnaient du sang, ils ne sont plus en quantité suffisante. Il faut une large participation vraiment de la communauté, de la population, à s'adhérer vraiment au réseau de donneurs de sang pour qu'on arrive à faire face à ces grands défis, réduire le décès par manque du sang. À cela s'ajoute problématique d'appui au programme de la transfusion sanguine. On est en train de se battre. Une poche de sang, nous sommes en train de le produire à un prix honoré à 68 $. Du moment que la population n'est pas capable de donner ces coûts-là, et nous sommes obligés de toquer de gauche à droite, quand bien même le gouvernement provincial nous aide, tant soit pas à la limite de leurs besoins. Il y a certains partenaires comme MSF qui fait un peu des efforts. Il y a l'Union européenne, PADIS, qui fait un peu des efforts, mais le gap, vraiment, il est important, c'est un grand défi.
Alors, quelle solution, selon vous, pour relever ces défis?
Moi, je pense carrément avec, parce que c'est un problème qui dure, hein, l'appui par rapport au programme de la transfusion, on travaille toujours en négatif, on est là toujours en train de commander les services par-ci, par-là. Moi, je pense que la solution pérenne essaierait de mutualiser. Mutualiser la production du sang. Si au niveau de nos autorités provinciales, et là je parle de notre province, nous pouvons prélever un peu des fonds sur les impôts par rapport aux ventes de boissons alcoolisées. Un peu, de façon que cet argent sert à la production du sang au niveau de la province et que nous puissions rendre disponible et accessible du sang à la population d'une manière gratuite. Que nous tous nous réfléchissons dans ce sens, qu'on puisse mettre en place un système de finances, de production du sang, de façon que la population reçoive du sang gratuit. Et cela va consolider notre production du sang.
Docteur Liliane, c'est vrai que vous venez d'évoquer les défis. Alors, parlez-nous maintenant, cette carence est due à quoi?
Moi, je dirais que la carence, elle est due par le fait que, premièrement, les besoins, les demandes à sang dans les hôpitaux ont fortement augmenté par rapport aux années passées. Il y a l'arrivée massive des déplacés de guerre qui dorment dans des conditions inacceptables et qui développent des maladies anémiantes. Et aussi, il y a ces blessés de guerre qui sont toujours là, qui fait alourdir encore le besoin. Pour nous, on s'est dit, seuls les donneurs qui donnaient par le passé n'arrivent plus à contenir ces besoins. La population de Nord Kivu, en Goma en particulier, n'est pas informée sur l'importance et la nécessité du sang. Nous tous relayons cette information au niveau de la base sur l'importance de donner le sang. Le sang sauve. C'est une matière précieuse qu'on ne trouve pas partout.
Docteur Liliane, merci.
Merci, hein.
C'était notre invitée, la coordinatrice du Centre provincial de la transfusion sanguine CPTS Nord-Kivu, Dr Liliane Bouiza, s'entretenait à Goma avec Bernardine Diambou. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.